La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le titre de la présentation de ce matin est « Le vin de Babylone à propos de l'adultère ». Et le texte de base de cette présentation se trouve en Apocalypse 18, du verset 1 à 7. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, « elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Traitez-la comme elle vous a traité. Rendez-lui au double ce qu'elle vous a fait. Dans la même coupe où elle a versé, versez-lui au double. Parce qu'elle s'est enorgueillie et s'est plongée dans les délices, autant faites-lui souffrir de tourments et d'afflictions. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. » Je m'arrêterai ici. Dans la Bible, la véritable Église est représentée comme étant une vierge chaste, tel qu'on peut le lire en 2 Corinthiens 11, verset 2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. » Et de plus, l'apôtre Paul nous dit que la véritable Église est l'épouse du Christ. En effet, c'est ce que nous lisons dans ce qu'il enseigna en Éphésiens 5, versets 23 à 32. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse et sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à l'Église. Ainsi, étant donné qu'une femme vierge et chaste est le symbole de la véritable Église du Christ, il s'ensuit que Babylone, la femme prostituée, est le symbole d'une Église corrompue. Et en Apocalypse 17, verset 5, il nous est présenté la mère des prostituées. Quelle église est la première à avoir été corrompue? Je précise, quelle église chrétienne est la première à avoir été corrompue et dont les autres églises ont suivi l'exemple en matière de corruption? Il s'agit de l'Église catholique romaine. Et ici, je ne suis pas en train de stigmatiser des individus, d'accord? Je crois qu'il y a beaucoup d'âmes sincères qui font partie de cette Église. Mais ici, nous parlons d'un système, d'accord? Et notez ce qu'il est dit au verset 7 d'Apocalypse 18 que nous avons lu tout à l'heure en texte de base. Il est dit, « Autant elle s'est enorgueillie et s'est plongée dans les délices, autant faites-lui souffrir le tourment et d'affliction. » Et remarquez la fin. « Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. » La Bible nous dit ici que cette grande église se fait passer pour l'épouse du Christ devant les habitants de la terre, alors qu'elle n'est en réalité qu'une prostituée. En d'autres termes, l'Église catholique romaine prétend qu'en dépit de son infidélité à Christ, elle reste la femme du Christ. Vous avez compris ça? En dépit de son infidélité à Christ, elle prétend qu'elle reste la femme du Christ. Donc, je suis infidèle, mais je reste quand même la femme d'eux. Je suis infidèle à Christ, mais je reste quand même sa femme. Je peux aller voir ailleurs, mais ce n'est pas un problème. Je reste quand même sa femme, en fait. C'est ce que la Bible nous dit de ce que cette église dit. Mais voyez-vous, c'est également ce que cette église dit d'elle-même. En effet, le pape Pie XII affirma lors de son allocution aux professeurs et aux élèves de l'Angelicum le 14 janvier 1958, « Et il ne vous faut pas seulement donner votre adhésion exacte et propre aux règles et décrets du magistère sacré qui se rapportent aux vérités divinement révélées, car l'Église catholique est elle seule l'épouse du Christ, est la gardienne fidèle de ce dépôt sacré et son interprète infaillible. » Ok? Il dit ici, le pape Pie XII, que l'Église catholique est elle seule épouse du Christ, est la gardienne fidèle de ce dépôt sacré et son interprète infaillible. Mes amis, comment ce représentant de l'Église catholique a-t-il pu affirmer une telle chose? Sur quoi se base-t-il? Il se base sur le dogme de l'infaillibilité papale, l'infaillibilité pontificale. Et voyez-vous, ce dogme, le dogme de l'infaillibilité pontificale, apparaît en ces termes dans Pastor et Tonus. Et là, il est dit, le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine sur la foi où les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouit par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint-Pierre, de cette infaillibilité dont le divin rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elle-même et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème. Donc, en résumé, lorsque le pape s'exprime en matière d'enseignement doctrinal, eh bien, cela est infaillible. Il ne peut y avoir d'erreur. D'accord? Et voyez-vous, cela est déjà en soi assez blasphématoire. Car qui d'autre que Dieu et le ciel sont infaillibles? Comment pouvons-nous affirmer cela, ne serait-ce qu'avec un peu de bon sens? La Bible nous dit dans l'Ancien Testament que ne vous confiez pas en l'homme dans lequel il n'y a qu'un souffle. On ne doit pas mettre sa confiance dans la chair. Et pourtant, on a là une institution qui déclare que son représentant, lorsqu'il donne un enseignement, il est infaillible. C'est comme si moi, je vous dis que du moment que je suis derrière le pupitre, tout ce que je vais dire, ce sera systématiquement vrai et que personne ici ne pourra me dire le contraire. J'avais dit que j'avais une prophétie, hein. Tout ce que j'avais dit derrière ce pupitre, jusqu'à ma mort, ce sera vrai et vous ne pourrez rien dire. Mes amis, si je vous dis ça un jour, mais vous me prenez, vous me mettez un coup de pied et vous me voyez par la porte. Vous me faites sortir de chez vous. Mais pourtant, ça, c'est une institution. C'est une institution. D'accord? Alors, bien évidemment, je prenais une expression. Je ne prenais pas la violence, mais c'était pour faire comprendre que, en fait, vous allez vous dire, mais Jean-Christophe, t'as perdu la boule. T'as perdu la boule, pasteur. Ben oui. Eh ben, là, cela est pour eux raisonnable. C'est même un enseignement et un dogme. Et voyez-vous, cette infaillibilité pontificale repose en réalité sur l'infaillibilité de l'Église catholique elle-même. En effet, sur le même site internet, nous pouvons lire la chose suivante. L'infaillibilité pontificale repose sur l'infaillibilité de la révélation confiée à l'Église. Avec les cardinaux et les évêques, le souverain pontife constitue l'Église enseignante. Celle-ci jouit d'une infaillibilité active, puisque cette infaillibilité a trait à l'action d'enseigner. Et plus loin, nous lisons, plus largement, c'est l'Église elle-même qui est infaillible. On distingue l'Église enseignante et l'Église enseignée, composée de l'ensemble des fidèles. Si l'Église enseignante jouit, comme mentionné plus haut, d'une infaillibilité active, l'infaillibilité de la seconde est passive. Pourquoi ? Parce qu'elle tient essentiellement à l'écoute et à l'obéissance. Les fidèles, qui forment ce que l'on appelle l'Église enseignée, doivent écouter l'Église enseignante. Mépriser l'Église, ce serait mépriser Jésus-Christ lui-même. Note le catéchisme du Concile de Trente. En effet, l'Église enseignante étant elle-même infaillible, puisque Jésus a promis de l'assister jusqu'à la fin du monde. Jean 14, 16 à 17. À travers son obéissance, l'Église enseignée est également préservée de toute erreur grâce à Dieu. Donc, voilà, on a le concept de l'Église qui est infaillible. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'Église enseignante, donc le corps enseignant, le pape et les cardinaux, et l'Église enseignée. Et si vous êtes un membre de l'Église catholique, on vous dit que si vous êtes fidèle à tout ce que l'Église dit, vous serez infaillible, d'accord? Vous êtes infaillible. Si vous vous obéissez à tout ce que l'Église dit, vous êtes vous-même infaillible. Mes amis, cela est très blasphématoire. Cela est très blasphématoire. Ainsi, la revendication de l'Église catholique romaine d'être infaillible implique qu'en dépit de son infidélité, et mes amis, cela est manifeste, car dans leur culte, dans leur lieu de culte, il y a la présence d'images taillées, ce qui est très clairement interdit par la loi de Dieu, en fait, le code que Dieu a écrit de son propre doigt. L'Église catholique romaine a changé le jour du repos. OK? Et il y a encore, etc., d'enseignements, en fait, qui ne sont pas bibliques et qu'elle-même reconnaît que c'est de sa propre autorité qu'elle a changé les choses. Donc, vis-à-vis de la Bible, il s'agit d'infidélité, en fait. Et, voyez-vous, du fait qu'elle revendique l'infaillibilité, cela implique qu'en dépit de son infidélité, elle ne peut pas être répudiée par Christ. C'est ce qu'elle prétend. C'est ce qu'elle affirme au monde, en fait. En d'autres termes, l'Église catholique romaine prétend qu'en dépit de son infidélité à Christ, elle reste la femme du Christ. Elle est irrépudiable, si vous me permettez d'inventer ce mot. Elle est irrépudiable. Et voyez-vous, cette théologie, sur le plan spirituel, est liée à la théologie de l'Église catholique sur le plan physique. Autrement dit, l'irrépudiabilité de l'Église catholique romaine est liée à l'irrépudiabilité entre un homme et une femme mariés. En effet, Abbé Jacob Yoda, qui est un dignitaire de l'Église catholique africain, dans son ouvrage « Ce qu'il faut savoir sous le mariage chrétien chez les catholiques », déclara « L'adultère est une infidélité et se trouve en contradiction avec la fidélité liée au mariage. Par conséquent, il est un manquement grave au caractère sacramentel du mariage. Comme dans toute situation de péché, l'Église condamne le péché d'adultère qui constitue un poison pour le lien sacré du mariage. Mais en aucun cas, elle ne condamne les auteurs d'un tel péché, se référant pour cela à l'attitude de Jésus lui-même. « Moi non plus, je ne te condamne pas, va désormais, ne pêche plus. » Jean 8, 11. C'est pourquoi l'Église a la conviction que malgré la gravité du péché d'adultère et le désastre qu'il engendre, il ne saurait, heureusement, avoir raison du lien matrimonial. C'est pourquoi le lien matrimonial demeure malgré l'adultère, dit-il. Et il continue en disant, « L'Église exhorte donc le conjoint coupable à la pénitence et à la conversion et la partie lésée au pardon. Toutefois, celle-ci n'y est pas obligée. Si elle refuse de pardonner, elle assumera cependant toutes les conséquences de son refus. En effet, si la partie lésée dans cette affaire ne juge pas nécessaire de pardonner, elle ne peut non plus obtenir de l'Église la rupture de leur lien. Tout au plus, son refus de pardonner peut entraîner une séparation de corps, mais ne peut rompre le lien matrimonial. Dans la séparation de corps, le lien de mariage reste intact. Donc, aucun des deux conjoints ne peut contracter un autre mariage tant que l'un d'eux est encore en vie, à moins qu'après un certain temps, il ne décide de reprendre la vie commune. Ici, nous avons ce responsable religieux de l'Église catholique en Afrique, dont son ouvrage est présent sur Internet, et donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné, parce que cela exprime effectivement la théologie de l'Église à ce propos, eh bien, qui commence en disant que oui, l'adultère, c'est grave, c'est en contradiction, c'est quelque chose de grave qui vient empoisonner le lien du mariage. OK, il exprime les choses et il dit que l'attitude de l'Église, c'est d'exhorter les gens au pardon, donc celui qui a péché, qu'il se repente, et celui qui est lésé, qu'il pardonne. Jusque-là, je dirais que tout va bien, en fait. Effectivement, la Bible nous exhorte au pardon, d'accord? Et la Bible nous exhorte à pardonner, et notamment les gens qui sont blessés, et dans toute situation d'ailleurs, même cette situation, et la partie qui a péché à la repentance, d'accord? Par contre, là où l'Église catholique va se singulariser de ce que dit l'Écriture, et là, je m'engage déjà avant d'avoir présenté quoi que ce soit, là où l'Église catholique va se singulariser de ce que dit l'Écriture, c'est qu'elle va dire que si, eh bien, il y a, entre guillemets, comme ils disent, refus de pardonner, eh bien, cela n'affecte en rien le lien du mariage. Et très précisément, c'est la fin du premier paragraphe que je vais prendre pour résumer la chose suivante. C'est pourquoi le lien matrimonial demeure malgré l'adultère. Okay? Donc, pour l'Église catholique, l'adultère ne vient pas dissoudre le lien du mariage. Okay? Selon l'Église catholique, le péché d'adultère ne vient pas dissoudre le lien du mariage. Okay? Et c'est pour cela qu'elle ne remarie pas les gens, c'est pour cela qu'elle a cette position-là, en fait. D'accord? Mes amis, il est intéressant de noter que les catholiques ne sont pas les seuls partisans de cette opinion. En effet, parmi les protestants, nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, adhèrent à cette théologie de l'adultère. Et, mes amis, la raison pour laquelle cette présentation est donnée, c'est afin de, notamment, de présenter le véritable caractère de Babylone à travers sa théologie concernant l'adultère. Et en cela, nous allons voir véritablement ce qu'est l'adultère, mes amis. Car je dois vous dire maintenant, et nous allons le voir, que cette définition de l'adultère que donne l'Église catholique n'est pas en accord avec la parole de Dieu. À savoir que l'adultère ne dissout pas le lien du mariage. Mes amis, nous devons avoir une juste conception de ce qu'est le péché. Considérons le texte. Le texte principal qu'utilisent ceux qui sont en accord avec l'Église catholique romaine. Et l'Église catholique elle-même, lorsqu'elle cite l'Écriture, ce qu'elle ne fait pas tout le temps pour avoir ses doctrines, eh bien, cite également. Lequel se trouve en Romains 7, versets 1 à 3. Romains, chapitre 7, et lisons les trois premiers versets. Romains 7, 1 à 3. Et là, il est dit, « Frères, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie? En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère si elle épouse un autre homme. » Voyez-vous, Paul applique ici l'illustration de la loi sous le mariage à l'expérience du chrétien. Le point principal qu'il est en train d'exposer ici est que la mort dissout l'obligation légale. Par conséquent, étant donné que la mort libère la femme des revendications de la loi sous le mariage, de sorte qu'elle puisse légalement en épouser un autre, ainsi la crucifixion du chrétien avec le Christ le libère de la domination du péché et de la loi afin de lui permettre d'entrer dans une union spirituelle et nouvelle avec le Sauveur ressuscité. Et notez les deux situations que l'apôtre mentionne. Le verset 2, il parle là d'une femme qui est mariée et il dit que une femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Ça, c'est la première situation, celle qui nous est présentée au verset 2. Et après, il nous donne une deuxième situation. Si, durant la vie de son mari, elle épouse un autre, là, au verset 3, il est dit qu'elle sera appelée adultère. Que veut dire l'apôtre Paul en disant « elle sera appelée adultère ». En fait, que signifie adultère? Parce que c'est ça le vrai problème, en fait. C'est que jamais l'Église catholique ne donne la définition de ce qu'est l'adultère, en fait. Mes amis, pour comprendre cela, il nous faut d'abord comprendre ce qu'est le mariage et très précisément à quel moment le mariage commence. Considérons Malachie 2, verset 14. « Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Mes amis, le mariage commence lorsque, devant Dieu, un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre pour la vie. Le mariage commence lorsque, devant Dieu, un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre pour la vie. Et à ce moment-là, Dieu prend acte de cette union et la légalise. C'est-à-dire que cette union devient alors une loi devant lui. Et être infidèle à cette femme qu'on a épousée constitue alors une transgression de la loi. Ce qui n'était pas le cas, je dirais, avant. Okay? Avant le mariage, ma pensée pouvait se porter vers une femme de manière propre, sans pour autant de faire de moi un adultère. Mais si pendant que je suis marié, je me dis, ah, cette femme-là, elle est belle, je me verrais, ah, pourquoi elle ne serait peut-être pas ma femme? Là, je suis adultère. Ok? Ok? Si vous, je prends ça juste pour illustrer le propos, pour vous montrer au niveau de la loi, en fait. D'accord? Dieu prend acte de cette union et la légalise. C'est-à-dire que cette union devient une loi devant lui. Dans mon illustration, je n'étais pas en train de justifier les pensées malsaines. Je pensais juste aux perspectives. Bien souvent, quand on n'est pas marié, on a des perspectives. On regarde à droite et à gauche, on se dit, oh, est-ce que ce ne serait pas elle, ma femme, etc. Ce genre de choses. C'est à ça que je pensais, pas à des pensées malsaines. D'accord? Que ce soit clair pour tout le monde. Autrement dit, le mariage est l'addition de deux engagements devant Dieu. Et retenez bien ça, mes amis. Le mariage est l'addition de deux engagements devant Dieu. Et je vais illustrer ça pour vous. De sorte que même les enfants pourront comprendre cette présentation. N'est-ce pas, Abby? Voilà le mariage, mes amis. Devant Dieu, Madame A et Monsieur B échangent des vœux. C'est ça le mariage. Et Dieu, il est témoin, en fait. Et il est témoin de cet engagement. Et donc, cet engagement mutuel constitue le mariage. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il si le monsieur B, il meurt, comme l'apôtre Paul dit? Ben, il n'est plus là. Il n'est plus là pour tenir son engagement envers madame A. Donc, automatiquement, étant donné que le mariage, c'est quoi? C'est l'addition de deux engagements devant Dieu. Madame B n'a plus personne pour être engagée vis-à-vis d'elle et elle-même n'a plus personne vers qui s'engager. Donc, automatiquement, le mariage, il n'est plus, en fait. D'accord? Et donc, à ce moment-là, eh bien, Madame A peut alors se remarier avec Monsieur C. D'accord? D'accord? Et ils vont échanger des vœux à nouveau. Et ça, c'est pour la vie. OK? Voilà ce dont l'apôtre Paul parle au verset 2 de Romains 7. D'accord? Maintenant, nous avons défini ce qu'est le mariage. Mais alors, qu'est-ce que l'adultère? Exode 20, verset 14 nous dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » En Exode 20, verset 14, le terme traduit par « adultère » vient de l'hébreu « na'af ». Et « na'af », qui correspond au numéro Strong H5003, signifie « commettre l'adultère », au sens figuré « apostasier ». Adultère, commettre l'adultère. Femme qui brise le lien du mariage. Mes amis, le sens même du mot adultère, c'est rompre le lien du mariage. OK? Ce commandement dans le Décalogue est là pour protéger l'institution du mariage. Donc, en disant, tu ne commettras point d'adultère, Dieu est en train de placer un commandement pour protéger le mariage. Il dit que si tu fais ça, tu dissous ton mariage. C'est ce que Dieu voulait dire, en fait. Et la définition du mot adultère elle-même a du sens. En français, il est dit que cela vient du latin adultéré. D'accord? Je passe la définition, mais je vous montre juste l'étymologie. OK? Le dictionnaire Robert nous dit que adultère vient du latin qui signifie adultéré. Or, que signifie adultéré? C'est altérer la pureté de quelque chose, le falsifier. Et Je vais vous présenter quelques synonymes de adultérer. Altérer, falsifier, dénaturer, gâter, frelater, fausser. Quand quelque chose est faussé, mes amis, est-ce que cette chose-là est encore vraie? Non, non. Lorsque vous avez préparé un repas et que le repas a tourné et qu'on dit qu'il est gâté, est-ce que c'est encore le repas que vous avez préparé là? Non, là, c'est autre chose qui s'est passé, mes amis. C'est autre chose qui s'est passé. Voilà ce que signifie adultère, mes amis. Le mot même, dans le mot même, il y a le sens. En fait, l'Église catholique nous raconte la même histoire que pour le baptême, en fait. Elle emploie le mot baptême, qui signifie immersion, mais elle lui attribue un autre sens. En ce cas, elle va asperger 3 gouttes sous le crâne d'un enfant. Alors que le mot même signifie quelque chose. Et que la définition du mot même est en contradiction avec ce qu'elle dit. Mes amis, la définition même du mot adultère est en contradiction avec ce que l'Église catholique enseigne. Revenons à notre couple, Monsieur B et Madame A, qui échangent des vœux devant Dieu. Car rappelez-vous, le mariage est l'addition de deux engagements devant Dieu, deux engagements mutuels. Ok? Si Monsieur B rencontre, alors qu'il est marié avec Madame A, il rencontre Madame D et qu'il s'engage avec elle et que automatiquement les deux s'engagent, qu'est-ce que cela est? Adultère. Madame D vient s'interposer entre A et B, en fait. Et Monsieur B cesse son engagement envers Madame A et reporte son engagement vers Madame D. De ce fait, il manque un engagement, en fait. Puisque rappelez-vous, le mariage, c'est l'addition de deux engagements mutuels devant Dieu. Donc, du moment qu'il y a un engagement qui est enlevé, en fait, automatiquement, le mariage est dissous et Madame B peut décider d'arrêter de se porter vers Monsieur B, en fait, qui lui a choisi une autre. N'oubliez jamais, mes amis, que le mariage est l'addition de deux engagements devant Dieu. Par conséquent, lorsqu'un engagement s'arrête, le mariage est alors faussé, falsifié, altéré, adultéré. Ainsi, en disant, si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère, en Romains 7, verset 3, l'apôtre affirma implicitement que, mis à part la mort, l'adultère est le seul péché qui vient rompre le lien du mariage. Ce qui est confirmé par son enseignement donné aux Corinthiens. Alors, j'aurais dû mettre ça. Ouais. 1 Corinthiens 6, verset 16. « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » D'accord? Ça veut dire que lorsque vous faites une seule chair avec un autre, que la personne avec qui vous étiez censé le faire, il ne peut pas y avoir 3 personnes dans un mariage, mes amis. Ce n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, c'est autre chose qui s'est formé, en fait. Et en 1 Corinthiens 7, verset 15, que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare, le frère et la sœur ne sont pas assujettis dans ce cas, mais Dieu nous a appelés à la paix. Ici, il y a 2 fois le mot « sépare ». Et ce verbe ici, qui est sépare, eh bien, il provient d'un terme grec qui est chorizo. D'accord? Et voyez-vous, ce terme, c'est un terme qu'on va retrouver dans le prochain verset que l'on va afficher. Car voyez-vous, l'enseignement de Paul, mes amis, ne contredit pas celui de Jésus. Lisons Matthieu 19, versets 1 à 6. Où allons-nous?
Matthieu 19, verset 1 à 6.
Là, il est dit. Quand Jésus eut achevé ses discours, il partit de Galilée et s'en alla dans les quartiers de la Judée, au-delà du Jourdain. Et beaucoup de peuple l'y suivit, et il guérit la leur malade. Des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter et lui dire, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit ?» Et il... Alors déjà, notez que la question que les pharisiens posent à Jésus, c'est « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit ?» Regardez bien ça à l'esprit. Et Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu que celui qui créa au commencement fit un homme et une femme ?» Et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Rappelez-vous que l'apôtre Paul a employé Corizo en 1 Corinthiens 7, verset 15, pour dire que si l'incrédule se sépare, qui se sépare? Le frère et la sœur ne sont pas assujettis. Dans ce cas, est-ce que vous savez ce que signifie le mot séparer ici? Quel sens que l'apôtre Paul entendait ici-là? Le même sens que Jésus, en fait. En Matthieu 19, verset 6, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare, corizo, donc pas. » C'est le même terme, en fait. Et Jésus dit ça juste après avoir dit ce que Dieu a joint. Mes amis, en disant que l'homme ne le sépare donc pas, Jésus affirme clairement qu'il est possible que l'homme sépare ce que Dieu a joint. C'est pour ça qu'il dit que l'homme ne le sépare pas. De manière à prévenir le fait que l'homme le sépare. Oh, comment l'homme peut le séparer? Comment l'homme peut le séparer? En rompant son engagement, mes amis. En rompant son engagement. Poursuivons la lecture. Car le contexte lui-même va nous éclairer. Il lui dit, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier ?» Il leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. » Mais, Je vais m'arrêter là. Notez que Jésus dit ici que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Remarquez que Jésus qualifie ces femmes comme leur appartenant. Parce qu'il dit de répudier vos femmes. En disant cela, il laisse entendre que ces femmes leur appartiennent toujours. Car ces hommes n'avaient pas de motif pour divorcer avec ces femmes. Car rappelez-vous la question que les pharisiens lui ont posée. Peut-on répudier sa femme pour quelque motif que ce soit? Il y a un contexte, mes amis. Et c'est dans ce contexte-là qu'il parle de la dureté de leur cœur à ces hommes qui viennent le voir et à leurs prédécesseurs qui ont agi comme eux, en fait. Et lisons le verset 9. Par contre, là, je vous demande que tout le monde ait sa Bible. Tout le monde doit avoir sa Bible. Matthieu 19, verset 9. Lisons-le ensemble. « Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre commet un adultère. » C'est ça?
Oui.
J'ai bien lu? Ah, j'ai bien lu. Ah, je vais relire. « Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre commet un adultère. »
Sauf.
Ah bon? Ah bon? J'ai omis quelque chose? Eh bien, mes amis, ce que je viens de faire, c'est exactement ce que font les gens qui adhèrent à l'enseignement de l'Église catholique. Ils omettent une partie de l'enseignement de Jésus dans ce verset. La condition. La condition, mes amis. Permettez-moi de vous afficher la chose suivante. Jésus déclare cela au sens négatif. Donc, dans l'original, le sens est négatif. Il dit, « Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, ce n'est pour cause d'adultère, et en épousera une autre, commet un adultère. » Voilà la situation, voilà le début du verset tel que Jésus le déclare. Et ça, c'est un sens négatif, dans le sens négatif. Maintenant, mettons-le dans le sens positif. Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme pour cause d'adultère et en épousera une autre ne commet pas d'adultère. Ce qu'on vient de faire là, c'est juste un exercice de français, mes amis. OK? C'est-à-dire, une phrase, vous pouvez la mettre dans le sens négatif, dans le sens positif, et toujours respecter l'enseignement qui est donné, en fait. Et là encore, c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. OK? Et donc, ils ne voient pas ce que Jésus veut dire. Alors, imaginons cela. Il faut que ce soit clair pour Joshua. Eh bien, nous avons toujours Madame A et Monsieur B qui sont et se sont mutuellement engagés devant Dieu. Cela devient alors un mariage. D'accord? Mais, et là, on va prendre le cas que Jésus donne. Madame A décide, eh bien, de ne pas maintenir son engagement avec Monsieur B, mais de le reporter sur Monsieur C. Quelle est la définition du mariage? C'est l'addition de deux engagements mutuels devant Dieu. Autrement dit, un homme et une femme s'échangent des vœux devant Dieu, lequel légalise cela et cela devient le mariage. Mes amis, là, il manque quelque chose. Il manque l'engagement de Madame A vers Monsieur B. Et un seul engagement, mes amis, c'est pas un mariage. C'est deux engagements mutuels l'un envers l'autre devant Dieu. Donc, de ce fait, Madame B est en adultère avec Monsieur C. Madame A, excusez-moi, est en adultère avec Monsieur C. L'engagement de Monsieur B, en fait, peut s'arrêter. Et donc, le mariage également. Et donc, étant dans l'adultère, Monsieur B, d'après ce que nous dit Jésus, tout du moins Madame A étant dans l'adultère, Monsieur B peut alors, eh bien, si Dieu le lui conduit, à échanger des vœux, étant donné qu'il est dégagé de son premier mariage du fait de l'adultère de Madame A avec Monsieur C, il peut à nouveau, si Dieu le conduit, échanger à nouveau des vœux avec, disons, Madame D, et être dans une... Madame D, c'est ça? OK? Avec... et être dans une relation de mariage devant Dieu. C'est aussi simple que ça, mes amis. T'as compris, Jojo? OK. Arrivé ici, vous pourriez ne pas être d'accord avec l'enseignement biblique que j'ai présenté. Mais si vous croyez que le don de prophétie a été manifesté dans le ministère d'Ellen White, vous devez alors sérieusement vous remettre en question, mes amis. Car dans Conseil sur la sexualité, l'adultère et le divorce, à la page 89, paragraphe 3, Ellen White déclare « Les Juifs permettaient à un homme de répudier sa femme pour les motifs les plus futiles et à la femme de se remarier. Cette coutume entraînait bien des misères et bien des péchés. Dans le serment sur la montagne, Jésus déclare nettement que les liens du mariage sont indissolubles, excepté en cas d'infidélité aux vœux du mariage. Il dit « Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Matthieu 5, verset 32. Il y a de ceux qui pensent que... OK. D'accord, l'adultère. Donc, elle peut se séparer. Elle peut se séparer, d'accord, oui. Mais elle ne peut pas se remarier. OK, le lien, d'accord, il est altéré. Mais elle ne peut pas se remarier. Non. Déjà, c'est pas en accord avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais poursuivons. À la page 89, paragraphe 1 et 2. Une femme peut très bien être divorcée selon les lois de son pays, mais ne pas l'être aux yeux de Dieu et d'après sa loi. Donc, la loi de Dieu. Aux yeux du Seigneur, seul le péché d'adultère peut quoi? Peut délier un homme ou une femme de leur serment de mariage. Bien que les lois du pays leur aient accordé le divorce, ils sont toujours mariés et femmes. J'ai vu que jusqu'à présent, Sir John n'a pas le droit d'épouser un autre homme. Mais si elle ou toute autre femme peut obtenir légalement le divorce pour cause d'adultère de la part du mari, elle est libre d'épouser qui elle veut. Mes amis, est-ce que vous avez vu les deux premiers mots du deuxième paragraphe? j'ai vu. Ça veut dire que là, c'est une vision qu'on lui a donnée, en fait. On lui a montré ça. Et quand elle dit « j'ai vu », c'est que c'est le ciel qui lui a montré ça, mes amis. C'est pas « ah, je pense que mon petit doigt m'a dit que… » Non, c'est pas ça, mes amis. Là, elle parle sous inspiration. « J'ai vu ». Et c'est pour ça qu'elle peut dire… À la page 73, paragraphe 1, Walter n'a pas répudié sa femme. C'est elle qui l'a quitté pour épouser quelqu'un d'autre. À mon avis, rien dans l'Écriture ne s'oppose à un remariage dans le Seigneur. Une fois que Dieu vous a montré, vous pouvez avoir un avis sur la chose, mes amis. Mais considérons un autre texte, après avoir montré cela, d'accord? Considérons un autre texte dans la Bible qui est employé pour défendre que l'adultère n'est pas un motif de divorce. Rendons-nous en Malachie 2, 14, que nous avons lu tout à l'heure, mais lisons jusqu'au verset 16. Malachie 2, 14 à 16. Voyons-nous? C'est cela. Et je vous ferai la lecture, comme d'habitude, dans la Osterwald. Et il est dit, « Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Personne n'a fait cela ayant un reste d'esprit. Et pourquoi le seul Abraham, donc ma version rajoute entre crochets, ok, l'a-t-il fait? Il cherchait une postérité de Dieu. Prenez donc garde à votre esprit et qu'il n'y ait pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. Comme nous l'indique la Osterwald, celui qui recherchait la postérité est Abraham. Et mes amis, voyez-vous, c'est dans ce contexte-là que Dieu dit qu'il est la répudiation, à savoir le divorce. Sarah n'avait pas été infidèle à Abraham. De ce fait, Abraham n'avait aucune raison légale pour la laisser afin d'aller vers Agar. Il a fait ça purement pour des raisons charnelles, en fait. Et voilà la répudiation que Dieu aime, mes amis. Celle qui est sans cause. Oui, la répudiation qui est sans cause, mes amis. Je le répète, la répudiation que Dieu est est la répudiation qui est sans cause. Car Dieu lui-même répudie l'Église qui lui est infidèle en Ésaïe 50, verset 1. Ainsi a dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce de votre mère, par laquelle je l'ai renvoyée? Ou qui est celui de mes créanciers auquel je vous ai vendu? Voici, c'est pour vos iniquités que vous avez été vendus. C'est pour vos rébellions que votre mère a été renvoyée. Mais ce n'est pas tout. Jérémie 3, versets 8 et 9. Et je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, Judas, la perfide, l'a vue. Et j'ai vu que quoique j'eusse répudié Israël, la rebelle, à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, cependant sa sœur, Judas, la perfide, n'a point eu de crainte. Mais elle s'en est allée et s'est aussi prostituée. Par le bruit de sa prostitution, elle a souillé le pays. Elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois. Mes amis, l'Église catholique romaine prétend qu'en dépit de son infidélité à Christ, elle reste la femme du Christ. Mais c'est sans compter sur le fait que Dieu répudie l'Église qui lui est infidèle. Et ce Dieu, mes amis, ne change pas. Malachie 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Voyez-vous, la vision de la relation entre Dieu et son peuple, la vision que l'Église catholique a de la relation entre Dieu et son peuple sur terre, est liée à la vision qu'elle a entre un homme et une femme. Puisque la relation entre Dieu, entre Christ très précisément, et son peuple, est illustrée par la relation entre un homme et une femme. Et c'est pour ça que l'Église catholique enseigne que non, l'adultère ne rompt pas le lien du mariage. Elle dit ça pourquoi ? Pour maintenir le fait que malgré son infidélité, elle reste la femme du Christ en fait. Pour justifier ses prostitutions, mes amis. Mais voyez-vous, la Bible n'est pas en accord avec ça, et l'esprit de prophétie non plus. Parabole de Jésus, page 264, paragraphe 2. C'est parce qu'il n'a pas répondu à la volonté de Dieu qu'Israël fut rejeté et que le Seigneur fit appel à d'autres peuples. Si à leur tour, ceux-ci sont infidèles, ne seront-ils pas rejetés de la même manière? Et la réponse est évidente. La réponse est évidente. Donc ici, il y a un principe en fait. C'est que quand on ne fait pas la volonté de Dieu, et bien évidemment qu'on y persiste, parce que Dieu, c'est pas « Ah, tu fais une bêtise, je te rejette ». C'est pas ça. C'est qu'on y persiste, mes amis. Comme tout à l'heure, on l'a vu en Jérémie 3, hein, il dit « Après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi ». Quand on est infidèle à Dieu, mes amis, Dieu va déployer tout un arsenal, toute une stratégie pour pouvoir nous ramener à lui. Il va nous montrer son amour. « Je t'aime, reviens, s'il te plaît, ne fais pas ça, tu vas périr. Reviens, tu vas périr, reviens. » Dieu va déployer tout son arsenal, mes amis, pour nous ramener. Mais si on ne revient pas, mes amis, Dieu doit faire avancer son œuvre. Et il va prendre un autre peuple. Il va prendre quelqu'un d'autre. Si je ne suis pas fidèle, il va prendre un autre pasteur et le mettre à ma place pour faire le travail. Voilà le Dieu que l'on sert, mes amis. Manuscrit Ulysses, volume 14, page 102, paragraphe 1. Il est dit, et vous pouvez le voir dans Événements des derniers jours, page 50, paragraphe 4 et 5, le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir. Remarquez, toujours. Et elle continue. Lorsque le peuple juif rejeta le Christ, le prince de la vie, il leur retira le royaume de Dieu et le donna aux gentils. Dieu continuera à travailler selon ce principe avec toutes les branches de son œuvre. Lorsqu'une église se montre infidèle à la parole du Christ, quelle que soit sa position, si élevée et si sacrée que soit sa vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. D'autres sont alors choisis pour porter d'importantes responsabilités. Mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de toute mauvaise action, s'ils n'établissent pas des principes purs et saints dans tout ce qui les entoure, alors le Seigneur les châtiera et les humiliera sérieusement. Et s'ils ne se repentent, il les enlèvera de leur place et les blâmera. Mes amis, qu'est-ce que dit la messagerie ici? Dieu fonctionne selon un principe. C'est-à-dire qu'il entre en alliance avec un peuple. S'il est infidèle, après de nombreuses réprimandes, châtiments, s'il ne se repent pas, il le met de côté et il prend un autre. Si à nouveau il est infidèle, il le met de côté, il prend un autre. Et il continuera comme ça, mes amis. Donc ne me dites pas que Dieu, hors de contexte, que Dieu est la répudiation de manière totale, puisque Dieu lui-même pratique la répudiation vis-à-vis de son peuple qui lui est infidèle. Amen. Dieu est la répudiation lorsque on répudie sans cause. Tel que Abraham l'a fait. Là, ça, c'est un truc que Dieu déteste. Malheureusement, le péché est entré dans notre monde. Et parfois, on a le cœur rendu aussi. Et parfois, on est infidèle à quelqu'un. Et là, alors, Dieu peut nous dire, là, c'est bon, tu peux arrêter. Si on a fait tous les efforts, comme lui, parce que c'est lui notre modèle, Dieu, il fait tous les efforts pour nous ramener. Si ma soeur, tu as fait tous les efforts pour amener ton mari, si mon frère, tu as fait tous les efforts pour amener ta femme et qu'elle ne veut pas revenir avec toi, ce n'est pas la peine de continuer. Parce que Dieu, il ne continue pas, en fait. Au bout d'un moment, il arrête. Au bout d'un moment, il arrête, en fait. Et voyez-vous, alors, certains vont dire ici, oui, d'accord, mais quoi? Mais pas l'église adventiste. Non, ce principe-là, il s'arrête avec la Odyssée. C'est terminé. Voilà. pourvu que la Odyssée, on ait les mêmes définitions. Parce que moi, je n'ai pas la même définition que vous de la Odyssée, je vous dis ça. Enfin, que la majorité d'entre eux. Non. Ça s'arrête avec l'organisation. L'organisation, non. Dieu ne va jamais la racheter, c'est impossible. Elle va se prostituer avec tous les rois de la terre. Elle va faire pire que l'Église catholique, mais jamais Dieu ne va la rejeter. Et si tu dis le contraire, non. Ah bon? En fait, je ne vais pas dire le contraire. Je vais laisser Madame White vous dire le contraire, mes amis. Dans Testimony for the Church, volume 8, page 247, paragraphe 2, le 21 avril 1903, elle dit « L'Église adventiste du septième jour doit être pesée dans la balance du sanctuaire. Elle sera jugée d'après les privilèges et les avantages qu'elle a eus. Si son expérience spirituelle ne correspond pas aux avantages que Dieu, à un prix infini, lui a assurés, si les bénédictions qui lui ont été conférées ne l'ont pas qualifiée pour l'œuvre qui lui a été confiée, cette sentence sera prononcée sur elle, trouvée trop légère. Elle sera jugée d'après les lumières et les occasions qui lui ont été données. » Mes amis, ne me dites pas, jamais de la vie, que Mme White a donné un chèque en blanc à l'Église adventiste. C'est complètement faux, mes amis. C'est complètement faux. Et ce n'est pas qu'une seule fois. Si quelque chose est dit une fois, la chose est importante. Mais si la chose est dit deux fois, c'est que là, mes amis, c'est confirmé. On a nos deux témoins, mes amis. Dans l'événement des derniers jours, à la page 42, paragraphe 5. Tout ce que j'ai affirmé à Minneapolis m'a été confirmé au sujet de la réforme nécessaire des églises. Des réformes doivent être opérées pour porter remède à la faiblesse spirituelle et à l'aveuglement qui affecte le peuple comblé par de grands privilèges et de précieuses opportunités. En tant que réformateur, les membres de ce peuple étaient sortis des églises traditionnelles. Mais voici qu'ils jouent maintenant le même rôle que celui joué par les églises. Nous espérons, dit-elle, en 1888, suite à la crise de Minneapolis, que nous n'aurons pas besoin d'une nouvelle rupture. Et ce mot, il est traduit à partir de l'original « coming out ». Tandis que nous avons à cœur de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, nous ne voulons, ni par la plume, ni de vive voix, cesser de protester contre le fanatisme sectaire. Madame White était en train de faire comprendre que si un fanatisme sectaire devait s'installer dans l'Église adventiste de manière incurable, eh bien alors, la voie serait ouverte pour appeler à une rupture, à un coming out. C'est ce qu'elle dit en anglais, c'est le mot qu'elle emploie et qu'ils ont traduit par rupture, c'est coming out. Et est-ce que vous savez pourquoi j'ai précisé ça pour vous, coming out? Vous savez pourquoi? Parce que Madame White parlait l'anglais, elle écrivait en anglais. Et elle a dit « coming out ». Est-ce que vous savez d'où est-ce que ça vient « coming out » ici? Apocalypse 18, verset 4 dans la King James Version. « And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. » Come out, coming out. C'est ce qu'il dit dans la King James Version, mes amis, Apocalypse 18, verset 4, disant « sortez du milieu d'elle ». Donc « coming, come out », c'est l'anglais pour « sortez du ». Et là, ils ont mis « rupture ». Mais là, le traducteur, il a voulu être gentil, en fait. Il a voulu passer un peu la pommade. Mais ce n'est pas ça. Elle faisait comprendre avec l'esprit d'Apocalypse 18, verset 4, « nous espérons que nous n'aurons pas besoin d'effectuer une nouvelle sortie, en fait, d'avoir une nouvelle sortie. » Voilà le vin de Babylone, mes amis, à propos de l'adultère. C'est que l'adultère, non, ne rompt pas l'alliance, en fait. On peut transgresser la loi de Dieu comme on veut. On restera son peuple. Et mes amis, c'est le même esprit que les adventistes ont aujourd'hui. Non. Jamais. On va jamais. Dieu ne va jamais nous racheter. Non. C'est impossible. Et puis les gens sont enragés quand vous leur dites le contraire. Mais permettez-moi de vous dire, chers adventistes, vous qui regardez cet enregistrement, celle que vous considérez comme une prophétesse a dit qu'il est possible qu'il y a à nouveau une sortie. Votre Église n'est pas infaillible. Pas plus que l'Église catholique. Pas plus que l'Église catholique. À tel point que cela se reflète dans la pensée de certains. Ainsi, cette présentation, loin d'encourager au divorce, montre la gravité du péché d'adultère, c'est-à-dire qu'il rompt le lien du mariage. Ce péché, mes amis, est le seul qui délie ce que la mort est censée délier. C'est pour ça qu'en Israël ancien, ceux qui commettaient l'adultère recevaient la peine de mort. C'est pas pour rien, mes amis. C'est pas pour rien qu'ils reçoivent la peine de mort si on les prenait en cas d'adultère. Nous avons vu ce que dit l'enseignement, la foi de Jésus, ainsi que son témoignage concernant le péché d'adultère. Et voyez-vous, je dois vous dire quelque chose. Avec l'autorité de la parole de Dieu, il n'y a pas de place pour la foi du pape dans l'Église du reste. Quand je parle de l'Église du reste, je ne suis pas en train de faire allusion au ministère dont je suis le pasteur, puisque le ministère dont je suis le pasteur n'a pas pour revendication d'être l'Église du reste. L'Église du reste, ce n'est pas une association de loi 1901, ce n'est pas un staff. L'Église du reste, ce sont des croyants qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. D'accord? Et ma mission est de préparer cette Église. Je ne suis pas le seul, Dieu merci. Mais en tout cas, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Et je dois vous dire, mes amis, la foi du pape, le vin de l'Église catholique concernant la doctrine ou concernant l'enseignement de l'adultère n'a pas sa place dans l'Église du reste. Le vin de Babylone n'a pas sa place parmi ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et je sais qu'il y a eu, qu'il y a, et qu'il y aura peut-être encore des avis contraires à ce que je viens de présenter en ce matin. Premièrement, à partir de la Bible, et deuxièmement, à partir de l'esprit de prophétie. Mais que l'on sache une chose, c'est que ce ministère, avec la grâce de Dieu, n'a jamais souscrit, ne souscrit pas et ne souscrira jamais à la moindre doctrine de l'Église catholique romaine. Et si certains décident d'arrêter de soutenir financièrement l'action de ce ministère, estimant ainsi me punir pour avoir prêché ce message, alors qu'ils sachent que le pasteur Jean-Christophe Boulotte continuera à adhérer à la foi de Jésus qui nous enseigne que l'adultère est le seul péché qui rompt le lien du mariage. Oui, mes amis, car contrairement à beaucoup de pasteurs, je peux prêcher haut et fort le véritable message des trois anges sans être influencé par l'argent. Et contrairement à ce qu'on avait pu me conseiller, je n'ai jamais appelé quiconque à soutenir financièrement mon œuvre, mon ministère. Et pourtant, Dieu m'a permis d'être à plein temps dans le ministère. Donc, par conséquent, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je viens d'enseigner, mais c'est pas ça qui va me faire changer d'avis, en fait. C'est parce que je ne prêche pas pour l'argent. Je prêche ce que Dieu dit qu'il faut prêcher, ce qui est juste. Je ne prêcherai pas pour faire plaisir à une poignée de personnes qui ont encore le vin de Babylone dans leur esprit, en fait. Le divorce pour cause d'infidélité donne le droit devant Dieu à la victime d'adultère de pouvoir se remarier. C'est pour cela que je n'ai eu et que je n'ai et que je n'aurai aucun problème en tant que pasteur à invoquer la bénédiction de Dieu sur des personnes dont le premier mariage s'est terminé par l'infidélité de leur premier conjoint. Et qu'on le sache, je l'ai déjà fait. Et je le referai encore si Dieu me montre qu'il faut le faire. Et je ne laisserai personne introduire la doctrine de Rome dans l'Église du reste. Parce que introduire cette doctrine dans l'Église du reste, mes amis, si vous êtes logique avec vous-même, si vous êtes logique avec vous-même, s'il nous faut introduire ça dans l'Église du reste, nous devons alors retourner dans l'Église adventiste. Et si on va vraiment jusqu'au bout de la logique, on doit tous retourner à Rome, en fait, puisque Rome est encore l'Église de Dieu. Puisque malgré ses infidélités, elle est en reine. Elle domine en reine. Elle ne sera point veuve, comme elle dit en Apocalypse 18, verset 7. Alors qu'elle n'est qu'une prostituée. Et que Dieu nous dit de sortir de là. Mes amis, c'est là la contradiction, mes amis. On ne peut pas adhérer à cette théologie que l'adultère ne rompt pas le lien du mariage, en fait. Sans danger pour notre acceptation du message du quatrième ange. Puisse Dieu, mes amis, nous aider à comprendre l'implication qu'il y a de ce vin de Babylone. Car l'Église catholique enseigne ça pour justifier son comportement. Et Dieu a envoyé, depuis le début du 19e siècle, un triple message pour préparer un peuple qui gardera non pas les commandements de Rome, mais les commandements de Dieu. Non pas la foi de Rome, mais la foi de Jésus. Voulez-vous faire partie de ce peuple? Moi, je le veux.
Amen.
Alors, puissions-nous, mes amis, avoir des idées qui s'harmonisent avec la parole de Dieu. Puissions-nous harmoniser toutes nos idées avec la parole de Dieu et avec le témoignage. Parce que l'Église du reste est celle qui garde le témoignage de Jésus. Il y a de ceux qui disent, qui s'appuient sur la Bible pour croire en cela, en cette compréhension catholique de l'adultère. Mes amis, le témoignage de Jésus qui a été manifesté dans le ministère d'Ellen White est archi-clair. Et si vous êtes logique avec vous-même et que vous vous accrochez comme à une idole à cette conception, en fait, votre destinée est de rejeter le don de prophétie, en fait. Et donc, vous allez tôt ou tard retourner dans Babylone, en fait, de manière officielle. Parce que vous allez cesser de garder le témoignage de Jésus. Malheureusement, il y a des gens comme ça, en fait, qui opposent le témoignage de Jésus avec la Bible, en fait. Ils ne voient pas, en fait, que c'est en accord. Parce que malheureusement, ils ont encore le vin de Babylone dans leur esprit. Il ne doit pas en être ainsi, mes amis. Si ma compréhension de la Bible, dans ce que Paul dit en Romains 7, ne s'harmonise pas avec ce que Jésus dit en Matthieu 19, c'est que je n'ai même pas la peine d'aller plus loin. Je suis dans l'erreur. Et ça, dans n'importe quel domaine, mes amis, si vous avez des textes bibliques que vous n'arrivez pas à harmoniser et que malgré tout vous prenez une position, vous êtes dans l'erreur. Ne réfléchissez même pas, mes amis. Tant que vous n'arrivez pas à harmoniser les textes, vous êtes dans l'erreur. Et encore plus, quand c'est avec l'esprit de prophétie, vous avez une vision de la doctrine, en fait, c'est juste un warning. Dieu vous envoie un warning pour dire que vous avez commis une erreur. Réinterprète ton truc et tu vas voir que tu t'es trompé. Puissions-nous, mes amis, avoir une foi saine. Puissions-nous faire partie de ceux dont il nous est dit qu'ils n'ont pas de mensonge dans leur bouche, pas de fraude, parce qu'ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Parmi les 144 000, il n'y a rien de Rome dans l'enseignement des 144 000 qui n'ont pas de fraude dans leur bouche. Il n'y a pas de doctrine de Rome qui découle, mes amis. On ne peut pas penser qu'on se prépare à faire partie des 144 000 et on a encore des enseignements de l'Église de Rome en nous, en fait. Ça ne peut pas être le cas, mes amis. Dieu est en train de préparer un peuple qui sera pur, Et pour cela, il faut que son peuple ait la pure doctrine. Vous ne pouvez pas espérer arriver à la pureté que Dieu attend de votre caractère si vous amassez, si vous collectez dans votre esprit des conceptions erronées et qui contredisent des enseignements clairs de l'Écriture et du témoignage. C'est pour cela, mes amis, que nous devons véritablement sortir de Babylone. Nous devons faire que Babylone, et surtout, il ne s'agit pas simplement de sortir Dieu d'un bâtiment, mais il faut aussi, mes amis, faire sortir de notre tête ce qu'on a entendu quand on était dans le bâtiment. Parce que quand on maintient ça dans notre esprit, la vision que Rome a en fait, c'est qu'on a récupéré ça dans l'Église catholique en fait. Et on est venu dans la vérité présente avec ce genre de compréhension. Et combien de fois que ça arrive? On voit des gens qui arrivent dans la vérité présente, dans le mouvement de la vérité présente, et en fait qui ramènent des compréhensions catholiques en fait. Puisse Dieu nous aider et puisse-t-il purifier notre esprit afin que nous puissions annoncer la justice et appeler le péché par son nom. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.